Ben oui, parce que je pense que la deuxième partie que j'avais prévue, finalement, on verra demain. Sur des cas concrets, des études concrètes et des, dans le domaine des entreprises, et dans le domaine, dans le domaine médiatique, ou dans le domaine littéraire.
On réserve
on peut,
5
mais...
minutes.
Oui.
Pour une petite,
oui, il reste 5 minutes.
Une question,
oui. Tu, voulais, tu prends tu veux le micro tu veux, oui, tu peux prendre le micro. Allô, oui. Non, il ne marche pas. Mais je crois pas qu'il marche.
Ah,
bah,
je crois. Bien baixinho agora.
Moi, je croyais qu'il marchait.
Agora foi.
Ah, voilà.
Bon, ma question, c'est sur les croire par rapport au savoir. Et. Il y a en sémiotique une tendance de décrire les croire comme une rationalité ou un système concernant une relation entre sujet et sujet. Et d'autre côté, les savoirs. C'est associer une relation entre le sujet et l'objet. Et ma question c'est, donc, où on peut rencontrer cette relation directe entre le sujet et l'objet?
Où peut-on?
Où on peut rencontrer où existe cette relation directe entre sujet et objet, si on peut considérer même la science comme une production discursive qui produit plutôt une faire croire que une faire savoir. Donc, et même dans la perception, il y a quelque sorte de foi ou de fiducie pour construire n'importe lequel objet de connaissance.
Merci, merci. Très vaste question, évidemment, à laquelle il est difficile de répondre. Je peux renvoyer, bien sûr, au texte auquel nous avons fait successivement allusion, Véronica en le résumant synthétiquement et moi-même, le texte de Grémas sur le croire et le savoir. Je voudrais répondre en deux moments. Premier moment, la prééminence modale du croire sur le savoir. Je crois, j'aurais tendance personnellement à mettre dans la hiérarchie des modalités, le croire comme une modalité première, et en me fondant évidemment sur la perception et sur ce que la phénoménologie nous a appris relativement à la perception, c'est-à-dire au fait que nous croyons en ce que nous voyons, et que ce croire, il est structuré par la polysensorialité. C'est-à-dire que le témoignage d'un de mes sens va se trouver confirmé par le témoignage d'un autre de mes sens. Si je perçois une surface rugueuse ou texturée, je me dis, elle doit être à mes yeux rugueuse et texturée, et je vais le vérifier avec mes doigts, avec le toucher. Si je perçois un bruit en me disant mais c'est un bruit d'hélicoptère, je vais me regarder et je vais avoir confirmation. C'est-à-dire que Merleau-Ponty explique que ce qu'il appelle la croyance matricielle, ce qui fait que nous avons le sentiment d'adhérer au monde, et résulte à la fois des collaborations intersensorielles et de la confirmation de nos sens. Par exemple, ces études sur l'hallucination, un des phénomènes propres à l'hallucination, c'est que justement, il y a une perte de la collaboration intersensorielle. Mais il y a l'impératif monosensoriel d'un bruit, d'une vision, etc., dont on sait qu'elle n'est pas vérifiée par les autres sens, mais qui néanmoins s'impose. Alors que, et le deuxième point, c'est la confirmation que la sensorimotricité, c'est-à-dire la sensorimotricité comme un des régulateurs des collaborations intersensorielles, et enfin la confirmation par les autres sujets. Nous vivons souvent des expériences où l'expérience sensorielle de l'autre auprès de nous nous rassure. Si on a une grosse inquiétude sensorielle, t'as vu, c'est un monstre. Non. Oui, il y a donc ça. C'est le premier point. Qui fait que le croire est créé à partir de cette expérience première du croire, cette expérience modale première. Je pense que d'ailleurs chez Bordron, l'indiciel, c'est le lieu de cette croyance d'il y a quelque chose qui me fait signe. Ça conduit, en fait, à cette fameuse réversibilité de la source, où ce n'est plus le sujet qui regarde un objet, mais c'est le sujet qui se croit regardé par l'objet, et qui est une des formes de l'expérience esthétique, où il y a une sorte de retour, avec toutes les limites que l'on peut, à mon avis, et toutes les prudences, que l'on peut développer à partir de là. Parce que moi, je pense qu'il y a une petite dérive mystique qui peut toujours accompagner ce type de réversibilité. Le monde me parle. Le monde me parle et je le reçois. Je n'ai pas beaucoup lu Heidegger, mais cette sorte de discours de la terre-mère qui me parle, etc., et n'est pas sans risque. Et je dirais qu'il y a pas mal de sémioticiens aujourd'hui qui exploitent ce filon esthésique de la réversibilité de la source de parole. D'ailleurs, Bordron lui-même a dit qu'il faudrait faire une place à côté de la sémiotique de la cognition, celle qui repose sur le lien sujet-objet, séparé, comme vous le dites, faire la place à une sémiotique de la contemplation, où la relation rectrice ne serait plus celle qui va du sujet vers l'objet, mais celle qui remonte de l'objet vers le sujet. Le sujet devient la structure d'accueil de ce que veut bien lui dire le monde, qui se trouve alors modalisé selon un vouloir dire, selon un savoir dire, etc., etc. Donc ça, c'est la première séquence de réponse à votre question, avec cette grande question sur la primauté du croire, en quelque sorte, sur le savoir, même si il relève d'un même univers cognitif. Et pour moi, la deuxième partie de la réponse, relève de l'échafaudage modal qui détermine ce fonctionnement du savoir. Moi, j'ai toujours été frappé par une échelle de la modalisation. La modalisation du savoir passe. De la modalité à l'éthique, qui repose sur le devoir ne pas être, c'est-à-dire le nécessaire, l'impossible, le possible, etc. Ne pas devoir ne pas être et ne pas devoir être. Le contingent. Ce qui ne doit pas être d'accord. Et qu'est-ce que ça a comme propriété, l'analytique? C'est bien le lieu du discours scientifique, si vous voulez. C'est l'eau bout à 100 degrés, la Terre tourne autour du Soleil, etc. etc. Hein, ce sont des énoncés objectifs, c'est-à-dire où l'objet semble être seul, occupant de la scène du savoir. Et lorsqu'on passe de là, on monte aux modalités épistémiques, c'est-à-dire celles qui articulent le certain, le probable, c'est-à-dire le croire être, croire l'improbable, etc. Croire ne pas être, ne pas croire ne pas être, etc. Et ne pas croire être. Ici, on est dans des modalités épistémiques et qui ont comme propriété de se fonder sur la relation entre un sujet connaissant et un objet. La modalité épistémique, c'est d'ailleurs celle du subjonctif, par exemple. Du mode subjonctif dans nos langues, qui installe, disons, des degrés variables de certitude. Et plus haut arrive la modalité véridictoire, celle où se jouent les facettes de l'être et du paraître, et du non-paraître et du non-être, formant le secret, le mensonge, le vrai, le faux, etc. Mais qui, dans les discours, les modalités véridictoires, forment une scène d'un paysage de relations conflictuelles, narrativisées, entre les sujets. Et donc le savoir, on pourrait dire, se règle à ces différents niveaux. Vous voyez, le fameux « mais pourtant elle tourne » de Galilée, lorsqu'il venait d'abjurer, c'est qu'il a lancé un énoncé à l'éthique, après avoir reconnu que sur le plan véridictoire, il s'était complètement trompé, et que les certitudes que l'Église et l'Inquisition imposaient étaient tout à fait vraies, justes, certaines. On voit le réglage de ces lieux du savoir, au fond. Donc, voilà le deuxième élément de réponse. Mais j'ai bien conscience que ça, c'est presque une petite mécanique sympathique pour comprendre. C'est vrai, moi, je me souviens, par exemple, que j'avais fait une étude sur des journaux, des magazines en France de vulgarisation scientifique, dont notamment l'un qui s'appelle « Science et vie », et l'autre qui s'appelle « Science et avenir ». Et dans l'un, on avait, par exemple, « Grande révélation, voici le Big Bang et la création du monde ». Et dans l'autre, la même semaine, il y avait « Les astrophysiciens se disputent sur le point de savoir si le supposé Big Bang est le moment de la création du monde ou pas ». Et c'était très amusant, si vous voulez, parce que ce petit constat se vérifiait sur toute l'organisation discursive du savoir dans les deux magazines de vulgarisation. Il y en avait un qui carburait, pourrait-on dire, à l'analytique, et l'autre à l'épistémique. Vous voyez ? Et ça permettait, quand j'ai rendu l'étude à je crois que c'était Science et Vie qui m'avait commandé l'étude, je dis, voyez, entre l'épistémique et l'analytique, vous avez des stratégies véridictoires à mettre en place et qui sont intéressantes. Donc ça, vous voyez, ça illustre la deuxième partie de la réponse à votre question.
Cette étude a été publiée ?
Non, jamais.
Faudrait la publier.
Tu penses que c'est intéressant ?
On peut la lire, oui.
Ben oui, c'est intéressant, mais je ne sais plus où je suis. C'est un de mes ordinateurs perdus. Oui.
Merci pour la conférence, c'est très bien. Pourquoi vous avez posé la spectralisation après les points de vue, les perspectives la focalisation dans un tableau, après le tableau, à un niveau discursif.
Oui.
Cette question, cette question est importante parce que la spécialisation, c'est un part essentiel pour la formation de point de vue, d'une perspective et d'une focalisation. C'est soit comme un process, c'est soit comme un élément du système. Et cette flèche que vous apposez dans le tableau, c'est un type d'aspectualisation pour mon point de vue. Et vous, vous êtes exemple de slow motion, c'est pour expliquer la focalisation, c'est un exemple de spécialisation, c'est la durative. Et vous avez dit que la perspective est relative socialement. Oui, je suis d'accord, mais c'est aspectatif, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous pensez?
Oui, merci beaucoup. Je crois que vous avez tout à fait raison d'introduire l'aspectualisation. C'est vrai que ça mériterait d'être retravaillé. Sans doute que, ce modèle-là, cette façon de présenter les choses, reste encore trop soumis à l'impérialisme de la perception visuelle. Et on dit quand même bien point de vue, hein, pour parler d'autre chose que de la vue. Et on dit perspective en se donnant comme référence, dans l'histoire de l'art, la perspective monofocale de la Renaissance italienne. Et peut-être, vous avez raison, mais je ne sais pas comment répondre tout à fait à cette question, excepté sur un point. C'est-à-dire que moi je crois qu'en sémiotique, on a assisté à une montée en puissance au fil des dernières années, et depuis assez longtemps, peut-être même depuis le livre de Grémas sur l'imperfection, à une montée en puissance de la problématique aspectuelle. Jeudi, après-demain, matin, Diana m'a invité à faire à Mackenzie une conférence, nous a invité, Véronica et moi, chacun va faire un petit topo, et moi j'ai proposé de parler du durable. Et le durable, dans la langue, et dans la culture, et dans le système de valeurs, comme étant la transformation de l'aspectualité en idéologie. Parce que le durable est un terme en français assez étonnant que les écologistes ont choisi pour traduire le soutenable, la sustainability. Et je crois qu'en portugais, on dit pas durable, on dit soutenable.
Soutenable, oui, c'est traduit en anglais.
C'est ça.
C'est la spécialité de Julia qui était avec vous jusqu'à...
Oui, on en a parlé avec Julia. On en a parlé, je vais lui donner les trucs, parce que moi, je me suis beaucoup intéressé. C'est intéressant, si vous voulez. Quelle différence y a-t-il entre le soutenable et le durable? C'est considérable comme différence. C'est-à-dire que dans le soutenable, on a une domination modale du pouvoir faire ou du ne pas pouvoir faire qui domine complètement, alors que dans le durable la modalité est présente avec le able, mais elle est soumise à l'aspectualité, et c'est l'aspectualité qui est le lieu central de la valeur. Mais durable, c'est assez étrange parce que c'est du duratif dont on ne sait pas où est le terminatif, ou c'est du duratif contre du terminatif. C'est l'idée que le duratif permet d'éviter ou de contrecarrer la menace du terminatif, la fin du monde, des trucs comme ça. Donc c'est, je pense que vous avez raison, que l'aspectualité, la prise en compte de la montée en puissance des dimensions aspectuelles, est un enjeu important dans la réflexion théorique en sémiotique aujourd'hui. Et je pense que vous avez aussi raison que réfléchir sur le rapport entre textualisation et aspectualisation paraît très 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 fécond. Très très fécond. Il suffit par exemple de voir comment l'écriture génère, par exemple dans l'écriture romanesque, des régimes d'attente, ou des régimes de syncope, ou des régimes de continuité, ou le survenir de la sémiotique tensive est un phénomène aspectuel. C'est de l'incoatif. Donc il y a l'aspectualité. D'ailleurs, Zilbert Berg insiste beaucoup, je crois, sur l'importance de cette dimension aspectuelle. L'aspectualité est transversale aux différentes dimensions de la signification et est au cœur, en effet, de l'énonciation. Donc ça, je suis tout à fait d'accord.
Initiative mis depuis les niveaux profonds, mais depuis les niveaux tensifs qui est homologé à les préconditions de la construction, de la signification et plan de contenu jusqu'à le plan de l'expression. Parce que nous, ici, à l'Université de São Paulo, nous travaillons beaucoup avec l'aspectualisation de la terre de l'annonciation. Et nous avons déjà pensé, mes élèves, moi, beaucoup, sur la possibilité de cette énonciation comme une quasi-présence au niveau profond, au niveau narratif, au niveau discursif. Donc, on voit une convergence très riche qu'on peut développer et que ta présence nous illumine pour les devenir, pour les, ce qui a de venir dans notre recherche sur les stylos, comme un étos que on déprende,
qu'on saisit
d'une totalité discursive. Et ce que tu as présenté aujourd'hui va nous aider beaucoup. Je te remercie au nom de tous nos chercheurs.
Merci. Oh non, je n'ai rien à dire, je te remercie beaucoup. Je pense que ce sont des questions sur lesquelles le débat est vraiment ouvert et sur lesquelles. En effet, on peut construire des passerelles conceptuelles avec différents régimes de spécialisation ou d'approfondissement ou de recherche sémiotique. J'ai essayé dans ma présentation de signaler, tiens, ici, vous voyez, la problématique coquetienne, ici la problématique de l'iconicité, ici la problématique de la tensivité, etc. Je pense que ce qui est important, c'est de ne... il faut bien sûr faire des choix dans le champ théorique comme dans la vie en général, mais il faut garder l'esprit ouvert aux passerelles qui éclairent et qui permettent de circuler entre les lieux théoriques et surtout de donner une petite lumière sur les différents lieux, les uns par rapport aux autres.
Tu nous montres que nous avons juste une sémiotique. Il y a quatre courants, cinq courants, mais au fond, une sémiotique.
C'est ce que j'aurais tendance à croire.
Oui. Et tu nous fais voir. Bah.
Bem, gente, dado o adiantado da hora, eu acho que nós podemos considerar concluído por hoje. E nós, agradecendo muito, mais uma vez, professor Benito Berton, professor Benito Berton.